me lucky, I'm first forever. When I walk the streets in the dark of the wee wee hours, I walk alone, I'm the lonely number. When I was born, didn't have a brother. As I went on, I never had a sister. I don't know why my folks said after me there would be no other. So I am the lonely number. When I count, I go 1, 3, 5. Tears don't match with the life that I have. It's a shame, never learn to love nor share with another. And here I stand, the lonely number. I was 2 one time with a pretty girl, but life said no, you gon' walk along the world over. My little girl, she caught a bad cold in the winter of last year, and guess what, I'm the lonely number. If I try to make up with you, never, never made to. Sure enough, my soul can't get with another. I gotta stand up, I'm the lonely number. I gotta stand up, I'm the lonely number. I am.
Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago qui redémarre en ce samedi 17 décembre, numéro 876, avec le disque coup de cœur du mois, toujours cet album Lonely Number de Nico Wayne Toussaint, dont on vient d'entendre le titre album. Deux invités aujourd'hui dans ce Sweet Home Chicago un petit peu spécial. Tout à l'heure, en deuxième heure, on aura Richard Kuckley en phoneur pour la sortie de l'album Holding for the With the Bad Boys, dedicated to the pioneers of Afro-American folk blues, autrement dit l'album disque de la semaine passé. Et puis en première heure, aux alentours de 13h15, on pourra s'entretenir également au téléphone en direct avec George Van Lintout, donc pour la sortie de son ouvrage Mojo, une bande dessinée. Oui, ce sera la toute première fois que j'aurai la joie d'interviewer un dessinateur dans une émission de radio. Sweet Home Chicago, on continue avec le label Dixie Frog. Une autre nouveauté en cette fin d'automne, Case B. Brown, c'est également le disque de la semaine. L'album c'est Down the Line, voici le titre album. Mr. Keith B. Brown.
Said I'm rolling, I'm moving, moving down the line. Speak up fast, girl, please don't waste my time.
tide. Took a while, but I finally hit my stride. Ain't nobody gonna stand in my way. Gotta keep on rolling each and every day. Hold on tight, girl. Here we go. Life behind me, full of pain. Many times I was about to go insane. Now I'm looking straight ahead, and people can't be digging up the dead. No more swimming against the tide. Took a while, but I finally hit my stride. Ain't nobody gonna stand in my way. I gotta keep on rolling each and every day. Hold on tight, woman. Here we go.
Mr. Case Brown, extrait de l'album Down the Line. Petit message aux auditeurs fidèles de Sweet Home Chicago. Il y aura bel et bien une émission en direct live la semaine prochaine, samedi 24 décembre, et non pas la rediffusion de celle d'aujourd'hui. Donc voilà, au liqueur. Et puis il y aura également une émission le 31. Donc on va se mettre sur notre 31 avec Pierre Sabater. D'ailleurs, il y aura un invité le samedi 31 décembre qui nous parlera des cigar box et puis de sa passion pour la fabrication des guitares customisées. Il en a déjà offert à pas mal de gens. Et puis je crois qu'il en est à sa 34e sa 34e guitare à partir d'une boîte de cigares. Voilà, pour Pierre Sabater, accordé que je recevrai le 31 décembre. Je vous rappelle, mes invités d'aujourd'hui, ce sont Richard Coquely en deuxième heure et Georges Van Lintout, là, tout à l'heure, d'ici 2-3 disques. Notamment, tiens, si l'actualité du Soubok, il va se passer des choses encore au mois de janvier, avec notamment le vendredi 20 janvier, avec la venue de Elliot Murphy and the Normandy All Stars featuring Olivier Durand. Il sera également présent le samedi 21, donc vous avez le choix. Mais si vous venez le vendredi 20, vous allez avoir Gaël Busuel en première partie. Ça s'appelle Little Sunshine.
Tears of love. Wake up in the light that brings us. the day of life. Wake up in this little world and let the sun shine tears of love. Wake up in the light that brings summertime. Wake up to win the day of life.
L'album s'appelle Yesterday's Shadow, il est signé Gaël Buswell, était ici sorti donc au printemps dernier. Gaël qui fera la première partie d'Eliott Murphy le vendredi 20 janvier prochain au Souboc.
They say I'm full of poison, I'm full of poison and grief. I'm the invisible man here, I leave my footprints all over the place. Well, off with their heads, cried the May Queen. Babe Ruth says, heads up to you. When you're riding on an American dream, it only matters what the lion man do. Hello from Alaska, from Madagascar, or Detroit. Watching Midnight Cowboy, I want a fringe coat like John Boy. And I was working in a shoe shop when Cinderella dropped by. She tried on some glass running shoes, I stole a glimpse of her thigh. She hadn't spoken to her sister since they got busted for dealing ecstasy. She said, well, she might be living in a pumpkin, but you know her sisters were living in spiritual poverty. Hello from Moscow, from Oshkosh and St. Pete. Well, I've been watching East of Eden. Whatever happened to Joanne Fleet? In a strange world, at least it looks that way to me. Am I the boy in the bubble, or am I the old man in the sea? Mr. Frankenstein and Dracula, but their needs seem ordinary and plain. When you compare them to those fanatical believers, I hear they're always expecting rain. Hello from Milano, from Amarillo, and cities on the plain. I've been watching the Sons of Katie Elder. I like that graceful strut of John Wayne. You know, I was born in the suburb, though I never understood what sub was. Shopping malls, shiny cars, I felt like a soap opera star. I couldn't stay there, enough was enough. Sometimes what you think is mediocre might turn extraordinary someday. What makes you laugh tomorrow may be the same things that make you cry today. Goodbye from Manhattan, from Garden City, Jackson Heights. Oh, I've been digging Jackson Pollock. He paints canvas like it's a heavyweight fight. Have I mentioned love? What must I be thinking? To my wedding knees I knelt. Love yourself, love your neighbors, I love your shoes, I love the way they match your snakeskin belt. Lone boy rides the subway, he's trapped in a world on his own.
Voilà, vous aussi, si vous êtes sage, vous aurez droit à Elliott Murphy en concert le vendredi 20 janvier ou le samedi 21 janvier au Souboc à Cobille. Ce seront les deux derniers concerts du Souboc, voilà, qu'on se le dise. Je suis au téléphone avec Georges Van Lintout. Comment ça va?
Ça va très bien.
Quel temps fait-il à Liège tout de suite? On vous a passé une tempête il n'y a pas très longtemps?
Ouais, non, là, il y avait beaucoup de soleil dans la matinée et puis là maintenant il pleut.
Eh bien, c'était le bulletin météo en direct de Liège,
voilà, ouais,
en Bruxelles, par Georges Van Lintout.
Hein.
Exactement, dessinateur, scénariste belge de bande dessinée. J'allais dire, la Belgique et la bande dessinée, c'est un mariage heureux depuis fort longtemps quand même, Georges.
Ah ben, depuis une centaine d'années. Hein,
depuis...
Et à Liège particulièrement, on est à peu près 150 dessinateurs. Et
150 dessinateurs.
Oui, il y a beaucoup de dessinateurs scénaristes.
Alors justement, voilà, on va aborder ces deux facettes en fait de vos activités qui tournent autour de la bande dessinée. Bien sûr, Georges Van Lintout d'abord est interviewé dans Sweet Home Chicago. Pourquoi? Ben parce qu'il y a la sortie d'un superbe volume qui s'appelle Mojo, qui a le format d'un roman mais qui est bel et bien une bande dessinée en noir et blanc qui vient de sortir chez Vent d'Ouest édition Glénat. Mais avant peut-être faire un petit point sur votre biographie. Vous venez d'une école d'art plastique.
Oui, moi j'ai fait les Beaux-Arts Saint-Luc à Liège, comme beaucoup de dessinateurs. C'est pas très original quand c'est Saint-Luc, ouais. L'Académie des Beaux-Arts à Liège, et puis voilà quoi. Moi en gros, mon rêve était de travailler dans un studio de dessinateurs, comme ça se faisait en tout cas assez couramment en Belgique. Moi je suis très copain avec François Altéry qui a travaillé chez Peyo, donc c'était un peu le genre de choses que je voyais.
Ouais.
Mais bon, ça s'est fait autrement, quoi. J'ai fait tout seul.
tout seul ou presque, enfin, j'allais dire, il y a eu pas mal de collaborations. J'ai eu l'occasion de parcourir un petit peu votre parcours, Georges Van Lintout. Ça fait déjà quelques années qu'il y a un personnage de bande dessinée qui s'appelle Lou Smog, hein, qui a été créé.
Le premier personnage, ouais.
Voilà.
Pas premier personnage en album, en tout cas.
Premier personnage en album dans les années 80
Oui, enfin, il est sorti... je travaillais pour le journal Tintin à l'époque, hein, qui était... Oui. C'était encore l'époque où on pouvait travailler pour des journaux. Et ça, c'était assez fabuleux. Ça, je regrette vraiment l'époque où on pouvait travailler pour des journaux. Tintin, Spirou, moi, c'était Tintin, en l'occurrence. Et j'ai créé ce personnage-là en 85, 86, je ne sais plus. Et puis en 90, il a commencé à sortir en album. Voilà, il y a eu 8 albums en tout.
J'ai retrouvé au fil de la biographie également des éléments de ma prime jeunesse, parce qu'il y avait une bande dessinée qui s'appelait Natacha il y a déjà longtemps.
Oui.
Vous avez l'occasion de collaborer également à ça.
Ouais.
Et puis, j'allais dire, pas mal de collaborations, notamment avec Yves Leclerc. Là, c'est plus récent, j'allais dire, les années 2000, c'est ça?
Mais Yves Leclerc, c'est un ami de... Il y a 40 ans qu'on se connaît.
D'accord.
Donc, c'était d'abord une histoire d'amitié, et puis un jour, il m'a proposé un scénario, et il me disait, je vais écrire un scénario pour toi, qui était un scénario plutôt historique, il est plutôt branché là-dessus, et musique beaucoup aussi, lui, mais à ce moment-là, c'était un scénario historique, qu'on a proposé au Lombard, où j'ai signé avec un habile pseudonyme, qui était Georges V.
Oui.
et puis voilà, on a collaboré ensemble, et on a fait alors... Après ces albums-là, on a travaillé pour Casterman, et où on a sorti entre autres l'album Conquistador, qui était déjà un album sur le blues.
Voilà, ben on va y venir à la musique, bien évidemment, Conquistador. Et puis il y a aussi aux éditions Nocturnes une biographie de T-Bone Walker qui est sortie.
T-Bone Walker, avec Leclerc aussi, ouais.
Et ouais, donc ça c'est aussi en rapport avec la musique. On va y arriver. Ouais. Est-ce que vous avez une culture blues? Est-ce que vos choix musicaux se portent particulièrement sur cette musique-là, ou est-ce que c'est beaucoup plus large?
Oui, culture, moi je parle pas vraiment. C'est mes goûts, oui,
la culture,
c'est le blues et le rock, le rockabilly. Voilà, c'est. Je me suis arrêté là, disons que je me suis arrêté au début des années 60.
Et justement, j'ai découvert aussi qu'avec Rodolphe, le scénariste avec qui vous travaillez sur cet album Mojo, vous avez écrit une biographie de Gene Vincent.
De Gene Vincent, oui, c'était suite à Conquistador. Moi j'ai rencontré Rodolphe à Angoulême. Comme ça se fait toujours, sur des hasards heureux, on était à la même table à midi, et puis voilà, on a sympathisé, et 15 jours après, il m'a envoyé ce projet-là et on a travaillé dessus et depuis, ben, on travaille ensemble. Quoi. Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble.
Les rencontres dans les festivals. Je crois savoir que Rodolphe, c'est un passionné de rock également. Hein.
Ah, lui, c'est je ne sais pas s'il y a un mot plus fort que passionné, mais on pourrait lui appliquer s'il existe. Parce qu'il est passionné, il est très, très connaisseur. Moi, je suis pas. Faut pas me demander des titres et des choses comme ça. C'est pas des choses qui m'intéressent. Moi, c'est vraiment la musique, les images que provoque la musique. C'est ça dans le blues. Il y a tout de suite des images. Quand on écoute du blues, j'ai pas 14 ans quand j'ai commencé à écouter vraiment du blues. C'était parce qu'il y avait des images qui venaient comme ça. Et puis les goûts se sont formés. Et voilà. Le rock, c'est pareil. Hein. Il y avait tout ça. Et puis moi, les années 50, j'ai toujours été assez. On regrette toujours ce qu'on n'a pas connu ou peu connu parce qu'on était trop jeune. Quoi.
Ah ben oui, c'était toujours bien avant, comme on dit. Pas mal maintenant, quand il y a quand même des belles choses qui
arrivent.
Voilà, il faut rien regretter, c'est vrai. Je voulais aussi signaler quand même quelque chose d'intéressant. Vous avez travaillé sur une adaptation du roman de Bud Schulberg qui s'appelle Sur les quais, qui avait donné lieu à un film d'il y a 15 ans avec Marlon Brando. Donc ça, c'est pareil, c'est sorti chez Casterman, tout ça.
Chez Casterman, Rivage Noir, c'est une collection que Casterman... Enfin, je crois que c'est Rivage Noir qui l'a initié avec Casterman, et voilà, ils font ça ensemble, et c'est une collection passionnante, parce que tout le monde a lu, en tout cas tous les auteurs de BD ont lu des romans de Rivage Noir, et on m'a donné le choix d'un roman, et en fait, je savais même pas que c'était sorti en roman chez Rivage Noir, moi, sur les quais,
ouais.
Et quand j'ai vu ça, évidemment, j'ai sauté dessus, parce que c'était un film qui m'avait tellement fasciné à l'époque où je l'ai vu à la télévision, j'ai pas vu à sa sortie, j'étais pas encore né, mais c'était un film qui m'avait laissé un souvenir extraordinaire, et puis voilà, moi je pensais que la collection était en noir et blanc, donc ça me convenait très bien, et c'est comme ça que j'ai fait l'adaptation avec Rodolphe, en fait, on a travaillé là-dessus, c'était un peu... Je vais pas dire en urgence, mais il a fallu le faire assez vite parce qu'on commençait la collection et j'allais être dans les 4 premiers qui sortaient dans cette collection.
Voilà, donc il y avait une commande de l'éditeur, en fait, quelque part.
C'est-à-dire que l'éditrice m'a appelé, elle avait vu évidemment Conquistador qui était sorti chez Casterman, et elle s'étonnait que je n'ai pas continué dans cette veine-là, mais je n'ai pas continué parce que c'est la collection dans laquelle ce Conquistador était sorti était soit arrêtée, soit en tout cas freinée des 4 fers, et moi je ne demandais rien de mieux que de sortir encore des albums romans noir et blanc, c'était un peu le but que j'avais, et c'est elle qui m'a proposé d'entrer dans cette collection-là, qui débutait, et elle m'a proposé un titre, et puis pour finir on en a choisi un autre qui était sur les quais, et puis voilà. Ça s'est fait comme ça, c'est une commande sans être une commande, quoi. Elle prenait des dessinateurs qui lui semblaient convenir à ce genre de collection.
D'accord, Georges Van Lintout en direct depuis Liège en Belgique, voilà, sur le 666, hein, radio 666, la radio du diable, ça vous fait pas peur la radio du diable, hein, quand on est un fan de blues, de rock?
Non, justement, si j'ai peur du diable, j'écoute pas du blues.
Alors, vos expériences de scénariste, de biographe et bien sûr de dessinateur, est-ce que finalement c'est pas une seule et même personne ou est-ce que vous compartimentez tous ces rôles-là que vous vous êtes donné au fil des années?
Mais moi j'ai commencé par faire scénario et dessin, j'ai tout fait à la fois. Puis quand il se trouvait qu'on a arrêté la série Lou Smog, je me suis dit bon, quand on travaille tout seul, on prend tous les coups tout seul aussi, et puis j'avais envie de ne pas trop me servir la soupe, donc qu'il y ait quelqu'un qui m'écrive un scénario qui m'oblige à aller voir ailleurs que ce que je me servirais moi-même un peu par facilité, et c'est comme ça que j'ai travaillé avec Leclerc et puis avec Rodolphe qui était dans un autre univers mais qui me convenait. Mais je travaille pas avec un scénariste avec lequel je n'irai pas manger au restaurant ou boire un verre, il y a d'abord une relation humaine qui doit se faire, mais je fais pas trop de différence. En fait, mon boulot, c'est de dessiner, c'est la bande dessinée. Et j'ai fait des choses qui sont plus, je vais dire, de la commande pour des albums de gags ou des choses ainsi. Mais comme je dis toujours, c'est mon métier, je dessine, voilà. Les musiciens font aussi du studio, quoi, voilà.
Il y a une question qui m'est arrivée dès les premières pages du livre Mojo.
Oui.
C'est, est-ce que ça a nécessité de la documentation, de l'iconographie et peut-être même des voyages, je ne sais pas, qu'est-ce qui a présidé en fait à la création?
La création, c'est en fait après le Bud Schulberg, si je me souviens bien, ou le Jim Vincent, je crois que c'est le Bud Schulberg, j'ai appris qu'il y avait un scénario de Rodolphe, je suis un copain dessinateur qui m'a dit j'ai un scénario de Rodolphe, mais je ne le fais pas, mais je crois que ça te conviendrait bien, c'est sur le blues, et c'est, bon, il me l'a envoyé, je suis allé le chercher, peu importe. Et j'ai téléphoné à Rodolphe et je lui ai dit, bon, écoute, tu bloques le scénario, je veux le faire avec toi. Il a repris le scénario, il a dit, oui, mais on va faire ça sous forme de roman graphique. Donc ça nécessitait un retravail pour étoffer l'histoire et faire quelque chose qui soit un bon gros roman, quoi, quelque chose qu'on ait du plaisir à lire, dans lequel on peut entrer et rester longtemps. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Du point de vue de la documentation, oui, ça a nécessité beaucoup de documentation.
Avec des recherches sur Internet ou sur le terrain?
Sur des bouquins, des choses. Et puis Rodolphe est quelqu'un qui a aussi beaucoup de documentation dans la tête. il connaît bien le sujet. Et comme toujours, bon, ben, quand on a travaillé sur Mojo, il n'est pas question de faire uniquement quelque chose qui soit axé sur la musique. Il y a l'histoire d'un homme, quoi.
Voilà, qui s'appelle...
À travers le siècle, enfin, voilà, bon...
Un homme qui s'appelle Slim White Moon, bien sûr, un nom inventé de A à Z, mais quand même inspiré de musiciens connus, parce que c'est vrai que les musiciens de cette époque-là, et ils continuent encore, pour certains, ils se donnent des prénoms, et puis c'est vrai que parfois ça peut éviter des bagarres inutiles, hein, quand on change de pseudonyme ou d'équiproquo. En tout cas, ça peut être l'histoire de John Lee Hooker, ça peut être celle de Robert Johnson, et ce monsieur Slim White Moon, il rencontre des gens qui ont réellement existé, Blind Lemon Jefferson, Sonny Boy Williamson, Robert Johnson. Voilà, c'est un parcours dans les États-Unis du XXe siècle, sur une bonne cinquantaine d'années, hein, que nous propose cette bande dessinée-là. Qu'est-ce qui vous a séduit d'abord dans le scénario, finalement?
Moi, c'est justement ce parcours-là. Et le côté un peu picaresque, le personnage auquel il arrive 50 000 trucs, il passe de la gloire à la misère. C'est pas un personnage qui est toujours recommandable, mais c'est un ça m'a plu parce que ça me permettait de dessiner d'abord 50 ans de l'histoire des États-Unis, mais dessiner, ça veut dire que ce sont des images qui évoluent. Je passe du début du siècle, aux années 70, fin des années 70, à la fin de l'album, quoi. Donc ça permet des décors qui changent. Et surtout, moi, je privilégie toujours, quand je pense à un scénario à adapter ou à travailler, c'est l'ambiance, l'atmosphère. Et là, quand Rodolphe m'a proposé le scénario, j'aimais bien l'atmosphère. C'est vraiment ça qui m'a fait démarrer. Voilà.
Sur un passage du livre, il y a cette fameuse tournée en Angleterre, notamment. Dans les années 60, elle est directement inspirée des tournées de l'American Folk Blues Festival, non ?
Oui, c'est évidemment très connu. Les bluesmen ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient redécouverts par des jeunes anglais, surtout. Et puis ça a donné un revival. J'ai toujours pensé que le blues, moi, il y avait des revivals comme ça réguliers. Quoi. Oui. On n'en parlait plus. Et puis tout d'un coup, voilà, ils émergent. Mais on l'a vu avec les Stones, ils ne se sont jamais cachés de leurs influences. Tous les groupes de l'époque étaient influencés par les bluesmen. D'ailleurs, les grands titres de blues ont été repris et dix fois. Quoi.
C'est bien pas entendu. Là. L'histoire bégaye, hein, de toute façon.
Oui.
Alors, donc, documentation, avec bien sûr des livres, consultation d'Internet. Est-ce qu'il y a eu des voyages? Est-ce que, George Van Linton, vous avez voyagé dans les mêmes endroits que Slim White Moon?
Non, pas pour ça. Je suis allé deux fois aux États-Unis, mais il y a plusieurs années. On était à Chicago, là, évidemment. C'est aussi l'occasion de voir quelques musiciens de blues, mais c'était un voyage pour aller faire la Java à Chicago. Pas pour cet album-ci, je n'ai pas bougé. J'ai bougé à travers les bouquins, beaucoup de recherches. En fait, Internet facilite beaucoup maintenant la recherche. On a inclus, par exemple, des scènes de lynchage, etc., parce que je discutais avec Rodolphe, je lui dis, on peut pas passer à côté de ça, parce qu'il y a quand même une condition humaine qui était là présente, on peut pas tourner autour, et ça m'a fait découvrir, on sait que ça existait, mais la violence, vraiment, avoir ça, on faisait des cartes postales, quoi, avec des lynchages et des noirs dans le sud qui étaient grillés vifs, quoi, enfin des choses, c'était abominable. Donc ce qui est dans le livre est largement édulcoré. Si on avait dû montrer ça, c'est presque du film gore.
Oui, parce qu'il y a la drogue, il y a la prostitution, il y a des choses pas très jolies, mais enfin la vie des bluesmen, elle est ainsi, elle est celle des hommes avant tout, et puis celle d'une certaine rudesse, hein, dans la vie américaine. Bon, c'est vrai que c'est le pays du rêve, mais c'est aussi le pays du marche ou crève quand même, hein.
Ah oui, oui, oui. Et puis pour eux, c'était surtout crève. Il y avait des cours d'histoire, enfin, incroyable. Maintenant, nous, on a aussi le but de raconter une histoire. Hein. C'est pas, on ne fait pas le but premier n'est pas de faire un album social ou quoi que ce soit, mais on peut pas l'éviter de toute façon, parce que sinon, quoi, on fait c'est tout sucré et enrobé de miel, quoi. C'est pas, voilà. Le but n'était pas là. Hein.
C'est un aspect important de votre travail. J'ai cru comprendre que vous aviez travaillé en milieu carcéral à un moment donné.
Oui, j'ai travaillé plusieurs années dans des prisons, on a fait des connaissances, des amis.
Ouais.
Oui, en fait, c'est arrivé par hasard, parce que c'est vrai qu'il y a régulièrement des groupes qui sont formés dans les prisons. Où
des ateliers de bande dessinée, finalement.
Oui, ça a débouché sur des ateliers de bande dessinée. Au départ, c'était juste des discussions des prisonniers qui voilà, ça leur permettait de sortir de cellule et de venir discuter avec nous. Mmh. Et puis, il y a un prisonnier en particulier qui a demandé de recréer une section Beaux-Arts. Ben, nous, c'était plutôt... J'étais avec mon frère Stiban et le dessinateur Didier aussi. On a recréé... un atelier bande dessinée, voilà, c'est toujours très difficile parce que les rythmes en prison sont beaucoup plus lents, hein, quand il faut faire travailler des taulards, ils n'ont pas le rythme qu'on peut avoir. Et puis c'est de l'administration, mais à puissance X. Donc il y a chaque fois qu'il faut amener un crayon ou un machin, il faut des autorisations, voilà. Mais c'est assez passionnant, en fait, je disais toujours... Ça m'a plus dépaysé d'aller en prison que de traverser l'océan et aller aux États-Unis. C'était, c'est. Moi, je pense que quand on a affaire à des. J'ai vu beaucoup de jeunes délinquants là. Je suis persuadé que si on leur avait fait visiter des prisons avant, ils auraient réfléchi à deux fois avant de faire des conneries.
Est-ce que ça n'a pas été tenté déjà ce genre de choses? Il m'a semblé que si, donc pas forcément dans les années récentes.
Oui, avec des avocats. Je sais que. On a tenté ça, mais c'est assez difficile, hein, les autorisations de visiter les prisons, même d'y entrer, nous, pour organiser des cours. Bon, et puis ça a été plusieurs prisons, parce qu'on a suivi des prisonniers qui étaient transférés, etc. Bon, voilà, qu'on a retrouvés dehors, qui sont rentrés en prison après, enfin bon.
Alors, il y a des concerts en prison également. D'ailleurs, c'est aussi une des facettes du festival Blues sur scène. Vous étiez présent cette année, vous avez signé votre ouvrage. Blues sur scène qui est un festival qui s'adresse à tous les milieux et à tous les publics, qui également propose des concerts en milieu carcéral, notamment, je crois, c'est sur Poissy, hein, la centrale de Poissy. Voilà. Comment est-ce que vous êtes arrivé à collaborer avec Blues sur scène? C'est eux qui vous ont invité? Vous avez fait connaître...
Ben, ils m'avaient déjà invité l'an dernier. Oui. Ils avaient fait une exposition sur T-Bone Walker et Conquistador.
Voilà, suite
et malheureusement, au moment de devoir aller dédicacer, là, j'ai eu un empêchement. Et alors, pour m'excuser, si vous voulez, pour un petit peu les dépanner, j'ai fait une vingtaine de dessins que je leur ai envoyés. Je leur ai dit, voilà, vous avez, parce qu'ils avaient dû prendre des albums, mais en prise ferme, ils ne pouvaient pas les retourner. Et donc, ils devaient les vendre pour ne pas perdre de l'argent. Évidemment, ce paramètre-là. Donc, je leur ai fait une vingtaine de petits dessins qui joignaient aux albums. Et comme ça, ils pouvaient les vendre. Et ils étaient sortis un peu de ce problème-là. Et alors... cette année, après la sortie de Mojo, évidemment, j'ai rencontré Bernard Launois, et puis il m'a recontacté pour refaire une exposition, et alors aller dédicacer, là, je crois que c'est la Maison de la Musique, je ne sais plus comment ça s'appelle, et alors à l'entracte et à la fin des concerts le samedi. Ce qui était passionnant, parce que on rencontre un public différent, évidemment, c'est pas dans le cadre d'un festival de BD. Mmh.
Alors, il y a également déjà des échos, hein, qui sont faits autour de la sortie de Mojo. Mojo est sorti quand? C'était en août, septembre
Non, c'était fin mai, je crois.
Ah voilà, mais je n'ai pas eu à ce moment-là.
Oui, mais sur les vacances, évidemment, on vend un peu moins de BD, donc on parle beaucoup moins de BD sur les vacances, donc on a parfois l'impression qu'il est sorti plus tard, mais il y a déjà quelques mois qu'il est sorti. Bon, c'est un album qui doit prendre une vitesse de croisière. Reste toujours, ce sont des formats particuliers. Moi, je trouve le format magnifique.
Ah oui, format roman. Hein, c'est pas un livre de poche, c'est pas non plus un grand album, c'est entre les deux. Et puis 192 pages, c'est somptueux.
Oui, c'est un gros boulot.
J'imagine bien. Il y a un parti pris, ça va être une de mes dernières questions, je vous remets toutes. Il y a un parti pris sur l'utilisation du noir et blanc.
Moi, j'ai toujours voulu, même à l'école, quand j'étais encore à l'école, le noir et blanc m'intéressait au-dessus de tout. c'est à l'époque qu'on a vu arriver des gens comme Comès. On parlait beaucoup plus aussi de Hugo Pratt, mais c'était du noir et blanc. Noir et blanc encre, quoi. Il n'y avait pas de grisé. Et ce qui m'intéressait, c'était la vie. Malheureusement, pour pouvoir arriver à imposer un dessin commercialement, il faut quand même reconnaître que c'est plus difficile à imposer. En tout cas, c'est ce que les éditeurs disent. Donc, il faut d'abord avoir fait un peu ses preuves et pour pouvoir imposer ce genre de travail-là. Il se fait que quand j'ai pu faire Conquistador, c'est un album qui a été assez bien remarqué. Et ça m'a ouvert des portes, lentement, mais ouvert des portes, voilà. Et puis alors, Bud Schulberg, là, le sur les quais. Et moi, mon envie, c'est de continuer du noir et blanc. Mais c'est un peu compliqué, parce que il y a malgré tout des impératifs commerciaux. Et bon, les éditeurs, c'est eux qui ouvrent ou qui ferment les robinets, quoi. Quand on est sur du noir et blanc, c'est un peu compliqué, parfois.
Alors, il faut faire ce que demandent les éditeurs systématiquement, ou est-ce qu'on peut frapper à la porte d'autres maisons?
Moi, j'ai changé beaucoup d'éditeurs. Hein. Je crois que j'ai pas fait deux albums noir et blanc dans la même maison. J'ai sorti juste avant Mojo, j'avais sorti Braquage et Bracassé à la boîte à bulles. Là, c'était avec mon fils qui écrivait le scénario, Benjamin. Et bon, voilà, c'est un peu l'opportunité de pouvoir travailler. Moi, j'essaye de faire ce que j'aime. Et puis alors, je regarde quel éditeur peut le publier. L'idéal, ce serait de continuer à travailler, par exemple, ici pour Vendouest, c'est une maison avec laquelle je me suis vraiment bien entendu, et je trouve que leur format est magnifique. Donc, dans l'idéal, ce serait de continuer dans cette collection-là, voilà. C'est vrai que c'est le noir et blanc. Moi, c'est vraiment un goût personnel, je trouve que...
Oui, non, mais ça convient, enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé que ça convenait tout à fait avec l'histoire, et puis vous avez une façon, vous évoquiez Hugo Pratt, c'est vrai que Corto Maltese, c'était pas vraiment, c'était des aplats, hein, oui, du noir et du blanc, c'est un autre style. Là, il y a tout un panache de gris, je ne sais pas combien de teintes de gris différents.
Oui, en fait, quand on dit du noir et blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc.
Mais non, c'est que du gris. c'est comme la vie en ce moment.
Voilà, c'est ça, c'est très nuancé.
Ouais.
Alors, mais pour moi, je trouve que mon travail est le plus personnel dans ce genre de dessin-là, de graphisme-là. Bon, le tout, c'est de s'accrocher. Puis j'aime bien les formats... ce qu'on appelle les romans graphiques. Je trouve ça bien.
Alors, peut-être une dernière question par rapport, pas forcément par rapport à cette bande dessinée dont on va rappeler le titre, bien sûr, Mojo, scénario de Rodolphe, et puis le dessin, c'est vous, hein, Georges Van Hultout, chez Vendouest. Je voulais également remercier Vendouest Glénat d'avoir offert un exemplaire de ce fabuleux album aux auditeurs et aux internautes de Sweet Home Chicago. L'album Mojo, donc, est disponible jusqu'à une date de janvier 2012 hein, sur la page concours, la page cadeau du site internet Sweet Home Chicago, blues.radio666.com. Vous allez cliquer, une question toute simple. Merci déjà de ce cadeau hein, pour les gens. Et puis, une question par rapport on parlait de Liège au tout début. Il y a un artiste liégeois qu'on connaît un petit peu dans l'émission et puis qu'on connaît surtout beaucoup en France. C'est monsieur Daniel Droix, alias El Mordé. Hein, monsieur, vous connaissez, je pense.
Oui, ben, c'est-à-dire qu'on est voisins, nous autres, notre delta, c'est la Meuse, c'est pas le Mississippi, et lui habite de l'autre côté de la Meuse. Oui, je suis déjà allé l'écouter plusieurs fois, notamment des concerts où mon fils a organisé un festival de boogie blues, et c'est mon beau-fils maintenant qui travaille là-dessus, et donc El Mordé était venu jouer là, notamment son disque de blues en wallon, ce qui peut paraître étonnant, mais qui sonne très, 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 très bien.
On avait adoré ça, sa découverte, il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Oui, c'est vrai que
elle a
un réel talent.
Et puis le personnage, comment...
Exactement. Le personnage, et puis je ne sais pas si vous partagez ça aussi, mais moi, j'ai toujours été captivé par son érudition hein, dans tous les...
Oui,
dans beaucoup de domaines.
Son métier aussi.
Hein, bien sûr.
Donc, oui, évidemment, ça, oui.
Ouais.
C'est marrant parce qu'on ne s'est pas vraiment rencontrés.
Oui.
Je crois que je le connais mieux qu'il ne me connaît. en fait, c'est vraiment... Je parle toujours du blues de la Basse-Meuse. c'est l'endroit où on vit.
Basse-Meuse Blues, c'est un de ses titres, d'ailleurs.
Oui. Et quand j'ai vu... Il a des morceaux qui sont très, très imagés. Et j'imagine beaucoup, quand je vois ces titres, où je lis les paroles, je me dis, il y a des choses à faire. Même en BD, il y aurait moyen de faire des courtes histoires avec ce qu'il a écrit. C'est très, très bien.
Très bien. bien. Georges Van Lintout, donc dessinateur de ce Mojo chez Van West. On va écouter un morceau que vous avez particulièrement apprécié, pas à sa sortie, mais au début où vous écoutiez de la musique. C'est un morceau de John Walker qui s'appelle Hobo Blues.
Oui, qui correspond bien à l'album.
Ah, qui correspond bien à l'album. Je voudrais vous remercier d'avoir donné un petit peu de votre temps, voilà, pour Sweet Home Chicago. Quelque chose à ajouter pour votre défense, Georges Van Lintout?
Pour ma défense, je n'ai pas à me défendre. Non, ce que je vais essayer j'ai recontacté Van West, je vais essayer d'avoir encore un ou deux albums en plus
génial, ça.
Pour satisfaire plus d'un auditeur, ce serait quand même pas plus mal. Donc je vais faire mon possible.
Ah bah ça, voilà. Très très gentil à vous. Une question d'auditeur, parce qu'il y a également des gens qui écoutent sur internet et qui réagissent sur le Facebook. Question de Pierre qui demande si vous vous déplaceriez éventuellement sur d'autres festivals à la demande. Voilà.
Évidemment, pour les demandes, c'est parfois plus simple. Si, évidemment, je n'ai pas donné mes adresses sur antenne, mais de passer par la maison Vendouest. Il y a des attachés de presse qui peuvent me recontacter. Ou alors par vous, si vous faites suivre. Hein, vous pouvez
faire je peux faire suivre, il n'y a pas de souci, bien sûr.
S'il y a des gens qui... faire suivre une demande pour un festival ou une chose comme ça, évidemment, je vais défendre l'album. Hein.
Tout à fait, on est là pour ça en tout cas. Merci beaucoup.
Merci
et puis à très bientôt, et puis bon Vendouest.
Merci.
Au revoir, Georges.
À bientôt, au revoir.
Au revoir. Monsieur Johnny Hooker, voilà, dans une version d'il y a bien longtemps de Hobo Blues. Merci encore à George Von Linton pour sa disponibilité et puis sa gentillesse. Je vous rappelle, vous pouvez également donc gagner cette bande dessinée Mojo sur le site internet de l'émission blues.radio666.com parmi plein d'autres cadeaux. Il va bientôt y avoir les revues. Je vais vous faire une petite revue de presse tout à l'heure de ce qui est déjà paru. Et puis plein de disques également. Alors vous allez voir directement sur la page cadeau. Voilà. Et sachez qu'aujourd'hui, il y a également les auditeurs sans internet ou avec, mais bon, enfin, en tout cas qui peuvent s'exprimer par téléphone au 02 31 94 66 66 qui seront sollicités tout à l'heure pour deux petites questions. Il y a le disque du mois, l'album de Nico Wayne Toussaint, Lonely Number, à gagner, et puis il y aura également le disque de mon second invité de la deuxième heure, donc qui s'appelle Richard Kukli, qui est actuellement en route vers Lyon, donc on va essayer de l'attraper sur une station service, voilà, avec le numéro de portable. Tout est magique en 2011, bientôt 2012. On continue avec le disque de la semaine, Case B. Brown, ça s'appelle All I Need.
Another day gets all the same, nothing new to say. Seems like nothing in this world is gonna come my way. All I need, someone to change my life. All I need, someone to change my life. All I need, sweet loving in my life. Used to have such a sweet little girl, treated me nice and kind. Now she's gone and I'm all alone and I'm about to lose my mind. All I need, someone to change my life. Stand by me, love me day and night. All I need is sweet loving in my life.
Garçon dont j'espère bien vous proposer une interview courant janvier, monsieur Case B. Brown, qui habite en France déjà depuis pas mal de temps, et dont la ville préférée est Bordeaux, tiens. Case B. Brown, l'album Down the Line chez Dixie Frog Records. J'en profite également pour vous glisser la pub gratuite suivante, à savoir que si vous allez jusqu'à demain, hein, ça se termine demain le 18 décembre, donc si vous allez jusqu'à demain soir sur bluesweb.com, c'est-à-dire le site officiel de Dixie Frog, vous allez avoir tout le catalogue de Dixie Frog à 10€ et même une sélection d'une bonne centaine d'albums, figurez-vous, à 5€, c'est-à-dire moins cher que le paquet de clopes. je sais pas ce qu'il faut. Non, on grave pas des disques comme ça, c'est pas possible. En plus, ce sont des digipacks monstrueux avec plein de choses dedans, avec parfois des livrets habilement fabriqués. Enfin, Dixie Frog, c'est un label. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de Sweet Home Chicago sans au moins un disque Dixie Frog. Voilà, c'est dit. On continue avec une nouveauté qui nous avait échappé lors de nos deux mois d'abstinence en septembre-octobre. Un album qui était arrivé à ce moment-là, l'album de Knut Reierstrund et Mighty Sam McLean. L'album s'appelle One Drop is Plenty. Voici Life, écoutez-moi ça.
Is my living in vain? Is my giving in vain? When I cry in the rain, tell me, do you hear me pray? Can you hear my prayer? Am I wasting my time? Will my dream be denied? Will my spirit live on? Or is it gone? Already gone? Of course not. Sometimes it feels like in a dream, baby. I'm caught in the spokes on the eternal wheel. Am I asking too much? Is my love really lust? Is it worth? Yeah. Set me free from this curse, love. Is my trivial game? Why must you treat me like change? Is my needing to blame?
Voilà, c'est sur un label norvégien qui s'appelle Kirkelig Kulturkulvesle de Knut Reiersrud et Mighty Sam McLean, c'est quand même plus facile à dire. Donc le band est norvégien, mais Mighty Sam McLean est bien sûr nord-américain. Un garçon qui vient de fêter ses 68 ans, figurez-vous. Mighty Sam, if you hear Sweet Home Chicago now, be sure and be glad to have best wishes for the end of this year and all the years to be spent together. Merci beaucoup, Mighty Sam McLean, pour nous offrir de pareils moments. On poursuit avec une dame qui, je pense, en est, elle, à ses derniers moments. On vient d'apprendre ça ce matin. Elle n'est pas encore tout à fait décédée, mais je crois qu'elle est sur la pente, malheureusement, définitive. Miss Etta James, on va l'écouter avec un de ses tubes planétaires. Il s'agit de At Last. Etta James.
Every time somebody gets married, they say, sing At Last. A dream that I